use une cette question touche les nouveaux GTLD et ceux qui existent déjà. Alors, c'est non seulement d'un point de vue de GTLD, nous pensons qu'aussi nous avons en politique, ça doit appliquer dans les registres qui existent et aussi les nouveaux registres. Alors, cela pose un problème pour nous de la part des personnels parce que nous avons les accords qui existent et quand on signe les contrats avec les obstacles des contrats. Alors, ça va nous poser des problèmes dans notre groupe, mais nous devons développer une politique de consensus et qui doit être en conformité avec cela. La question, c'est si nous avons des rôles dans l'intégration verticale et surtout avec les règles qui sont appropriées pour le développement de politique. Alors, dans ce rapport, ce n'est pas clair si nous pouvons avoir les politiques concernant les registres et les questions que nous devons vraiment délibérer et surtout dans nos groupes. C'est juste pour donner une historique concernant ce projet. Cette question, on est censé aborder cette question auparavant et ils ont fait des recommandations en mois de septembre et aussi septembre 2007, on a eu l'approbation en juin 2008. Les recommandations qu'on a eues étaient, c'est la 10e recommandation, avec le programme, on doit avoir un contrat qu'on doit appliquer au début du programme. Alors, pour ça, on va savoir ce qu'on est en train de faire et c'est la recommandation de questions d'intégration verticale. Alors, pour les registres, on doit vraiment y avoir dans le contrat, dans le processus de l'intégration. C'est pourquoi nous avons la préquestion que si le GNSO doit fonctionner, ça doit fonctionner bien et ça doit être sur base d'un accord. Je ne vais pas entrer en détail concernant l'intégration verticale. C'est juste quelques exemples de ce qui se passe dans la communauté. La raison pourquoi nous avons eu le rapport, c'est que le conseil doit donner le rapport de ce qui se passe actuellement et si nous avons eu une analyse concernant les accords de registre avec les modèles, les termes, dans les pratiques actuelles, on a eu des changements dès le début. Et la majorité de ces changements, on a changé avec les accords au lieu d'avoir le processus de conseil. Alors, c'est l'information sur ce que nous allons faire. Alors, si vous voulez participer de cela, et surtout avec le groupe de travail demain, et si vous avez les recommandations de politique avec les deux GTLD, ceux qui existent et les nouveaux GTLD. Nous avons plusieurs objectifs. Et premier objectif qui était important, c'est avoir les activités et pour le programme GTLD. Et c'est un l'objectif dans la charte et pour ne pas avoir des impacts sur le GTLD qui existe et terminer le travail dans le délai donné de 16 semaines et aussi conseiller le conseil et donner les nouveaux accords de registre. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'était juste un résumé. Merci beaucoup. J'apprécie. Je sais déjà que la région, on a eu les discussions concernant ce sujet. Et la question, si nous avons des régions de répondre ou faire partie de ce processus dans un délai court, est-ce que cela, ça c'est sur base de l'anglais, et est-ce qu'il y aura l'enthousiasme, la compliment, parce que nous travaillons au niveau multilingue, alors ça c'est un défi. Est-ce que vous êtes prêtres? Nous ne sommes pas prêtres, parce que là, nous avons plusieurs langues et nous espérons qu'un jour, qu'on peut faire quelque chose. Alors, nous travaillons toujours en anglais. Est-ce que cela, les régions peuvent prendre en considération cette question? Et surtout ceux qui sont impliqués dans ce processus. Et il ne faut pas avoir ces attentes fausses. Et nous allons travailler en anglais. Alors, les questions, s'il vous plaît. Et alors, c'est juste une curiosité. J'aimerais savoir l'intérêt à l'âge dans l'intégration. Et si c'est une question de compétitivité des contrats, et quelle est l'étendue de tout cela? J'ai participé dans une réunion où nous avons posé cette question, et où si le registre avec les domaines pour le public et tout le monde. Et ils ont insulté leur mère. Et ce que j'ai dit, cette question de l'intégration verticale, il y a un registre viable, un arrangement qu'on peut avoir qui sera utile. Mais ce que je me demande, c'est il y a la restriction pour avoir le modèle d'affaires. Et je comprends pourquoi les registres, il y a les questions des registres, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est dans l'intérêt du public d'avoir cette relation? Est-ce que vous voulez? Malheureusement, nous sommes dans une situation avec les accords qui existent, structure, et le pour changer, ça vient lentement. Et nous avons les observations, surtout avec les nouveaux GTLD, cibler les communautés spéciales. Cela fait du sens, et dans la perspective marketing, on peut le faire. Mais le conseil considère déjà cette question. Ce que nous discutons actuellement. Alors, dans un contexte à l'âge, nous voulons présenter cela et encourager ICANN avec les nouveaux GTLD de ne pas forcer les modèles dans les registres quand on travaille avec les registres. Et ici, première chose, nous avons les personnes ILS qui travaille donc. Et si vous avez des réunions, et ça c'est une question, et on peut établir cela avec les mécanismes et continuer. Et même ce qui dit qu'on ne doit pas avoir l'intégration et maintenir le modèle qui existe. Ils sont tous d'accord que les petites communautés, les domaines de communauté ou les TLD, le modèle TLD ne fonctionne pas pour. Alors nous avons besoin de discuter cela parce que nous sommes tous d'accord que le modèle de séparation va fonctionner. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir l'intégration, mais j'ai dit que cela ne fait pas partie de la discussion. Alors, le GTLD, Olivier. Je m'excuse, je n'ai pas lu la proposition, mais oui, j'ai une question des discussions des derniers jours. Et comme est-ce que c'est facile d'avoir le système, d'accéder au système? Parce qu'actuellement, nous considérons les registres et nous ne considérons pas l'autre aspect. Et généralement, les registres, ils ont les agents. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'on peut avoir un contrat entre celui chargé de registre et nous avons les agents qui vendent les registres de la part de ce chargé de registre. Alors, est-ce qu'on parle des agents? Et ça fait partie de discussions. Et c'est difficile d'avoir les rôles définis clairement, et surtout avec ces affaires. Et ce sont les discussions qui sont en cours, et le concept qui existe, c'est l'accès équilibré. Et cela veut dire qu'au niveau des registres, un registre, ce n'est pas acceptable d'utiliser un registre et fournir à ces personnes et les traiter d'une manière équilibrée. Alors, c'est une grande question. Et si vous avez une situation là où on a besoin d'avoir les registres, est-ce qu'ils doivent travailler avec les autres agents ou bien est-ce qu'on les traite de la même façon ou est-ce qu'il y a les réseaux différents au niveau des affaires? Et nous n'avons pas de règles concernant ces agents. Alors ça, c'est une lacune qui existe. Oui, c'est une lacune parce que nous n'avons pas vraiment les règles qui abordent cette question. Et cela semble que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais les contrats n'abordent pas cette situation. Et je pense que dans la séparation, on peut considérer cet aspect parce que c'est un moyen aussi de répondre à cette question. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pouvez poser des questions? Ou est-ce que nous remercions notre intervenant et aussi et s'assurer que nous continuons ou est-ce que nous allons aux régions et aussi pour avoir la question des voix des anglophones. OK, merci beaucoup.
Right, ladies and gentlemen, we are now moving to...
Madame, monsieur, maintenant nous allons passer à autre chose. Je suis vraiment désolé pour commencer à 9h15. Je suis très désolé d'être venu en retard. Et aujourd'hui, on a eu donc le problème problématique. Et puis, nous avons des problèmes avec l'équipement d'interprétation. Les choses ne marchaient pas à ce moment-là, mais la technologie, parfois, nous joue des sales tours. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte pour vous faire une brève présentation. On m'a demandé par le groupe de faire une mise à jour des activités concernant la loi et puis les études de précision. J'ai commencé tout de suite. Si nous avons le temps, nous allons donc parler de ces deux sujets. Nous allons parler d'abord de points sur la mise à jour, les activités de renforcement. Je vais partager la nouvelle diapo avec vous qui va vous donner un aperçu général de ce qui s'est passé pendant les dernières années concernant les activités et à la conformité à la loi. En 2003, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y avait une délinquance de la masse. Mais au cours des années, les chiffres ont été très stables jusqu'en 2008 où il y a eu une grande augmentation, surtout en 2009. Je pense qu'il y a une explication pour cela parce que, comme vous le savez, au niveau de Cannes, nous n'avions pas une sorte de conformité pour le contrat jusqu'en 2006. Un collègue qui est directeur de la conformité au contrat, il m'a dit que ça prend quand même beaucoup de temps pour pouvoir faire avancer les choses. En 2008, en 2009, on pouvait voir qu'il y a eu une augmentation concernant la fin de contrat. Jusque-là, nous avons 46 fins de contrat au moment où nous avons obtenu ces données. Voilà donc les différentes activités qu'on a menées de 2009 en février 2010. Ici, je voudrais partager avec vous juste pour essayer de voir quand vous essayez de parcourir les différents points à partir d'en bas jusqu'en haut, vous verrez que nous avons eu des contraintes concernant la conformité. Nous avons essayé de voir où se trouvent les différents problèmes et puis on peut voir avec les conservateurs de registres pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a envoyé des notes pour voir qui n'a pas pu se conformer aux contraintes du contrat. Et si par exemple quelqu'un ne se conforme pas au contrat, on lui envoie une note pour lui faire part de la mauvaise conduite. Et après, on essaye, si par exemple la personne ne se conforme pas au contrat, à ce moment-là, on peut terminer le contrat. En 2002, nous avons donc terminé 9 registres et puis 2 autres. Et tous à sa fin de contrat, comme vous pouvez le voir, il y avait des raisons communes pour le non-renouvellement du contrat ou même à la fin du contrat. Et le conservateur des registres, donc, il suit tout ce qu'il doit faire comme activité pour essayer de faire en sorte que l'on puisse respecter ou suivre la loi telle qu'elle a été stipulée dans le contrat. Et parfois, il y a une combinaison de tous les différents critères. Mais parfois, nous avons aussi des problèmes quand celui qui est chargé de la conservation des registres ne fait pas son travail comme il faut. Et souvent, il est aussi question, parfois, quand le conservateur des registres ne travaille pas bien, qu'on puisse aussi voir si on peut mettre fin à son contrat, surtout quand ils ne suivent pas les règlements comme il se doit. Alors, on essaie de persuader le conservateur des registres pour mettre fin à des contrats au cas où il y a non-conformité, et surtout quand on ne suit pas les règlements tels qu'ils sont stipulés dans le contrat. Alors, ce que nous essayons de faire, souvent, parfois, on arrive à un arrangement amical avec celui qui est chargé de conserver les registres avant de terminer quelques contrats que ce soit. Et puis, tout ce qu'il y a comme arrangement doit être approuvé par le conservateur de registres. Ça, c'est une très bonne protection, tant pour celui qui s'occupe des registres de société et celui avec lequel on a signé le contrat. Concernant la fin donc de contrat RAA, on essaye d'utiliser un outil approprié pour mettre en application le AAA. Mais cet outil, il faut donc essayer de l'utiliser à bon escient. Et ce que nous avons donc l'intention d'utiliser ces outils, vous pouvez voir que ce sont des outils qui sont très solides, mais il faut dire aussi que ce sont des outils de dissuasion qui sont très efficaces. Et maintenant, je voudrais parler un peu des données escrocs du conservateur des registres. Et ça, c'est donc des données qui datent d'il y a 2 ans. D'abord, ici, il y a les dépôts des données au niveau du conservateur des registres. En tant que dépôt, on a vraiment bien travaillé, mais les données que j'ai reçues de mon collègue, c'est qu'il y a eu 811 registres qui ont été déposés, approximativement 99% d'enregistrements. Et puis, il y a 79 registres qui n'ont pas de nom de domaine. Et toutes ces données, donc, sont des données qu'on appelle des données escrocs. Et il y a donc 79 registres qui n'ont pas de nom de domaine. Ces 19 registres seront opérationnels dès le moment où ils auront leur nom de domaine. Et maintenant, il y a aussi des données d'audit. Mais si, par exemple, une société n'a pas déposé donc son registre, et cela fait qu'ils ne pourront pas être opérationnels jusqu'à ce qu'ils pourront avoir le nom de domaine. Pour les données d'audit, il y a approximativement 140 registres qui sont contrôlés par moi. On renouvelle donc l'IDEA, la conception IDEA, par exemple. Et si, par exemple, on ne se conforme pas au règlements tels qu'ils sont stipulés dans le contrat, alors là, on peut mettre fin au contrat. Concernant les IRTP, l'audit IRTP, je veux dire qu'il y a 3 raisons pour que ces audits puissent avoir lieu en 2010. Nous avons pratiquement 12 000 plaintes de consommateurs par an et qui sont donc liées au problème de transfert. Alors, avec le temps, nous essayons de voir ce qu'on peut faire et puis résoudre les problèmes. Pour le reste de cette année, on essaye de finaliser donc les problèmes concernant toutes ces plaintes qu'on reçoit. Et maintenant, nous essayons de voir dans quel ordre est-ce que les conservateurs des registres de société vont travailler. C'est donc le conservateur de registre de société qui va sélectionner quelles sont les plaintes sur lesquelles il faut se pencher avant les autres. Il y a donc 20% de perte de transfert avec les taux de NAC qui dépassent 20%. Il y a aussi des gains de transfert dont le taux de NAC dépasse 40%. Et puis, il y a aussi 5 registres qui sont pratiquement prioritaires, qui sont aussi sujets à des plaintes qui sont reçues par ICANN. Et puis, on reçoit aussi la notice concernant l'audit. On utilise la nouvelle réglementation RAA, donc l'outil pour la réglementation RAA. Nous essayons donc d'utiliser d'autres outils pour la mise en application, comme le RAA, de telle sorte que le public puisse avoir des informations sur quel conservateur de registres sont bons et quels sont les autres qui ont besoin d'amélioration. Et si nous avons encore beaucoup plus d'énergie, nous pouvons donner à applaudir plus tard. Merci, Madame la Présidente. Concernant la diapo qui va suivre, je vais parler ici de la communication et des efforts de communication avec les différentes communautés. Les problèmes de non-conformité, donc, c'est les résultats du manque de compréhension. Nous voudrons donc essayer de faire comprendre le public les règlements RAA. Nous avons aussi des publications que nous faisons pour essayer d'atteindre la communauté. Nous envoyons ça à travers le monde entier. En août de l'an dernier, on a eu des publications, on a visité 16 conservateurs de registres aux États-Unis. Donc, c'était en août de l'an dernier. On a essayé donc d'expliquer pour qu'on puisse avoir une compréhension générale de la manière dont les affaires sont gérées ou menées. Maintenant, on va passer à l'étude de précision WHOIS. Je dois vous dire que je n'ai pas beaucoup de détails dans ce domaine, comme la plupart d'entre vous le savent. Cette étude a été menée il y a quelque temps. Je peux juste vous donner un aperçu sur cette étude. Le rapport a été donc posté dans le site web en février, le 15 février, et on attend donc la réaction du public. Aujourd'hui, je pense que si vous avez besoin de faire des commentaires sur cette étude, vous pouvez le faire en allant sur ce site web et donner autant de commentaires que vous pouvez. Et puis, je voudrais vous dire qu'il y aura un atelier après la réunion de Bruxelles, ce sera au mois de juin, où il y aura cet atelier des thématiques très importantes, les rapports. On va donc parler de thématiques très importantes à cet atelier. Je pense que tout le monde sait déjà qu'il y a donc des critères des critères qui sont donnés. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas au courant de cela. Mais je pense qu'il y a une diapo qui va passer, qui va en parler. Cette diapo montre donc les critères qui sont utilisés pour vérifier les adresses ou faire une évaluation pour voir si les informations que détiennent les conservateurs des registres sont exactes ou pas. Et voilà, donc je ne vais pas parcourir tous les critères, je vais passer à la diapo suivante. Et ça, donc, c'est pratiquement, ça s'explique, ça va de soi que ça s'explique, c'est très simple. Les résultats de cette étude qui ont été faites, c'était donc sur la nature de l'inexactitude des informations. Concernant la non-précision, elle est surtout causée, non pas par les conservateurs des registres, mais par en quelque sorte, le maintien des informations. Et il y a le fait que parfois les conservateurs des registres ne font pas très attention aux informations qu'ils reçoivent. Et puis il y a aussi des problèmes de traduction des informations. Et la cause de la non-précision, ça cause beaucoup de problèmes. On essaie de voir comment on peut résoudre cette question concernant la non-précision. Quant à la nouvelle diapositive, ici, on peut vous montrer qu'il y a à peu près la moitié qui ne sont pas vraiment, où il n'y a pas de précision. Il y a donc, pour ceux qui ont des précisions, il y en a 23 ou 24%, mais pour ceux qui se trouvent entre les deux, donc, il y a 25% d'informations qui ne sont pas précises. Ou des informations qui ne sont pas précises. Donc, je disais qu'il y en a au moins à 21%. Maintenant, en marge du rapport, je peux vous dire que la plupart des problèmes qu'on reçoit, c'est quand, par exemple, le conservateur des registres n'a pas reçu des informations correctes ou bien quand il n'a pas fait d'efforts pour obtenir des informations. Et on sait quand même que il est possible de réaliser la précision, surtout dans la collecte des informations. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme diapositive que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Madame, vous pouvez y aller, et puis je vois quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole. Je pense qu'il était pratiquement... Il n'y a eu que 70% de couverture de la presse là-dessus. On n'a pas parlé de cela du tout. Et parce que enfin, les informations qu'on n'a pas eues n'ont pas couvert tout ce que vous venez de nous dire. Il est très important que le travail du conservateur des registres est très important. Mais dans le rapport, je n'ai pas du tout bien compris quand vous parlez des limitations. Vous avez dit que vous n'avez pas pu contacter des gens à interviewer. Et pour moi, je pense que ça, c'est une faille donc dans l'enquête ou l'étude, parce que je n'ai pas compris ça. Parce que là, on a dit qu'il y a quand même eu un échec un peu limité. On a parlé de ce qui s'est passé. Et moi, je me demande combien de personnes n'ont pas pu répondre. Je pense que c'est l'échec du processus. Ce n'est pas l'échec, donc, du conservateur de registre, comme on a dit. C'est-à-dire, il faudrait quand même qu'on puisse avoir une indication de la nature de l'échec. Donc, toute nature de cela n'a pas été clairement reflété dans le rapport du tout. Oui, je pense que ce que vous venez de dire est très important, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une couverture de la presse comme il faut. On n'a pas vraiment donné sensation en faisant que cette histoire puisse être là une. Comme ce que je comprends, c'est cette étude donc faisait partie d'une enquête et parfois il y a des contraintes. Surtout qui proviennent de la personne qui a été contactée ou qui n'a pas répondu aux questions du tout. Merci, Anne. Vous pouvez y aller. Cette étude est très intéressante et la conclusion est encore beaucoup plus intéressante. Quand on dit que la précision n'est pas du tout possible, à moins qu'on puisse augmenter aussi la cause de cela. Mais ma question est la suivante. Il me semble que le département de conformité, en ce qui concerne la mise en application du RAA, il y a donc, on ne sait pas quelle est l'obligation à qui que ce soit de pouvoir mettre en application le RAA. Je me demande combien de conservateurs de registres ont pu terminer des contrats parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conformés au règlement. Et puis, d'où provient cette imprécision. Et puis la deuxième question, c'est sur le RAA. C'est une question vraiment très simple. Mais pardonnez mon ignorance. Et tout ce que le RAA, ça veut dire, c'est un accord d'accréditation du conservateur des registres. Et puis la troisième question est liée à ma deuxième question. Si cela inclut l'accréditation des accords par le conservateur de registre, je pense que le département de conformité doit aussi essayer de faire de telle sorte qu'on puisse respecter les règlements tels qu'ils sont stipulés dans le contrat. Je pense que c'est l'obligation du conservateur de registre de pouvoir préserver la marque. Il faudrait donc tout ce qui est question de conformité dans un contrat et puisse être pratiquement puisse être examiné par le département de conformité. Je pense qu'il faudrait que je puisse répondre à ces questions une après les autres. Concernant la précision, concernant la conformité sur la précision, je pense que la réponse la plus brève est que non, ça ne se fait pas. Parce que l'imprécision, c'est de pouvoir fournir des informations correctes, voir d'où proviennent ces informations. C'est une obligation, donc, du conservateur des registres, surtout quand on voit ce qui est stipulé dans le contrat, parce que l'accord est fait et signé avec le conservateur des registres. Et c'est une obligation, donc, du conservateur des registres d'inclure dans le contrat et demander au conservateur de registre de pouvoir fournir des informations correctes. Parce que si cela ne se fait pas, en fin de compte, on a toujours des informations qui ne sont pas utiles. Et en fin de compte, il faut voir quelle est la politique, donc, concernant la précision. Et peut-être qu'il faudrait voir les conservateurs des registres tous les 12 mois pour voir s'ils peuvent mettre à jour les informations qu'ils détiennent.
Donc, il n'y a pas de mécanisme pour assurer la mise en œuvre pour cette conformité. Et la deuxième question, c'était quoi la question? Alors, la définition de IRM. IAA, ce que, à part l'accréditation des registrants, je peux vous parler de la politique. Ça, c'est justement une politique, une procédure de politique. Et je peux parler de la section 3.7.A qui parle des obligations de la part de ceux qui sont chargés des enregistrements, de faire des enquêtes pour confirmer l'exactitude de l'information qu'ils ont reçue et d'avoir un système pour leur donner l'information dont ils auront besoin pour vérifier. Et avant de donner ou d'accepter les noms de domaine ou avant d'accorder ce droit, on doit être sûr, on doit vérifier l'exactitude. Et il y a quelque chose d'autre, c'est que ce qu'on exige, que ceux qui sont chargés des enregistrements doivent étudier les données et s'assurer que la vérification au point de l'enregistrement est guidée par la politique déjà en place. Et je peux vous dire que si on se sert de ces procédures, de ce processus, et on voit que la vérification au point de l'enregistrement peut-être améliorer l'exactitude ou l'inexactitude. Donc c'est pour ça que nous avons ces politiques et nous avons eu des commentaires et nous avons aussi jusqu'ici et les commentaires que nous avons eu, c'est qu'au niveau de l'enregistrement, il faut qu'il y ait un système de vérification de l'exactitude avant qu'on approuve. Et je pense, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Alors en ce qui concerne les conservateurs des registres, on essaie de renforcer les contrats, les accords qui existent, mais ça nous demande des ressources et le temps pour obliger les clients. Donc il y a des questions qui se posent à cause de ces contrats. Et normalement, ce n'est pas quelque chose qui nous cause des problèmes. Alors, on continue avec les questions et les commentaires. Passane et puis Olivier, merci. Pour dire que nous avons une question concernant les groupes de travail. Et notre réponse au rapport, c'est que les ALS de l'Amérique du Nord sont impliqués dans le travail de trouver une réponse à ce rapport, mais une préoccupation, c'est la vérification elle-même. Et si ça ne doit pas être une des conditions, des prérequis, et deuxièmement, si vous étudiez la façon dont on a fait le rapport, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'enquête et les conditions ont été bien établies. Et si, avec les pourcentages que nous vous avez donnés, et c'est vrai que, comme Adam a dit qu'il y avait quelques problèmes avec cette enquête. L'enquête n'était pas parfaite. Et c'est peut-être, c'est pour ça que ça cause des inquiétudes qui ne sont pas forcément nécessaires. Et ce que nous nous engageons à faire, c'est d'étudier l'exactitude des données parce que je crois qu'il y a des corrections qu'il faut faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que cette étude, donc l'application de la méthodologie n'a pas été parfaite. Et donc, quand on parle d'exactitude ou l'inexactitude de l'étude, il y a quelque chose de correction qu'on va faire. Donc, on a Olivier et deux autres. Merci, Madame Présidente. Je suis tout d'accord avec mon collègue que je ne vois... Le système que nous avons maintenant n'est pas... C'est comme le Disneyland. et c'est que tout le monde va vous donner les détails et les quantités des informations qu'ils ont. Merci bien. Donc je prends ça comme commentaire pour améliorer les données que nous avons. Ma question concerne des DPRS, le système de gouvernement, et surtout concernant le fonctionnement, et quand il n'y a pas ça, le système ne fonctionne pas, ça inquiète les usagers. Je comprends qu'il y a des questions techniques dans le système et nous avons fait une demande au conseil de gestion de rectifier, d'assurer que ces problèmes techniques sont résolus, et je pense qu'il y a toujours la possibilité d'améliorer ce système. Et normalement, on s'occupe des plaintes reçues et comment on procède à les résoudre. Donc, je pense même avec le budget que nous avons maintenant, nous avons des ressources, nous avons l'argent pour améliorer ce système. Des commentaires est quelque chose que j'ai constaté et je vais expliquer. Moi, j'habite dans une ville où la municipalité fait des vérifications de l'hygiène dans les hôtels et les restaurants, et les résultats ne sont pas publiés parce que si on publie cette information en disant qu'un tel restaurant ne suit pas les bonnes pratiques, on va être obligé de fermer un restaurant comme ça. Donc je pense, je ne sais pas comment il faut procéder. Est-ce qu'il faut partager cette information? Donc il faut consulter le personnel juridique pour savoir comment il faut le faire. Comme ça, on ne va pas détruire des entreprises, nos affaires. Merci, Alan. Et on va pas consulter. On va consulter le personnel juridique, les experts, pour connaître quelle est la meilleure façon de partager les résultats de la recherche. Alors, c'est à vous de voir ce que vous allez partager, ce que vous allez envoyer à ceux qui s'intéressent. Merci bien parce que vous me donnez des feedbacks qui est bien spécifique concernant notre travail et ce que nous devons aborder maintenant. Donc vous avez toujours du travail à faire et merci bien pour le travail que vous avez fait et pour le temps. Merci bien et merci tous pour votre temps et vos réactions. Après ça, nous avons Kellen qui va nous parler de et on espère que la technologie ne va pas nous poser des problèmes. On ne peut pas avoir cette réunion sans Kellen. Elle est régulière et elle va parler des aspects de nouveaux programmes de GTLD et on se focalise sur le caractère de IDN et on se base sur le nouveau GTLD programme dont nous avons parlé hier. Et je m'excuse pour la technologie si ça ne marche pas bien. Merci à tous pour me recevoir encore une fois. La dernière fois que nous étions ensemble à Séoul, et on avait le rapport qu'on préparait à l'époque. Et nous avons eu des commentaires, beaucoup de commentaires sur ça. Et j'ai passé beaucoup de temps en rédigeant le concept qui n'a pas été, mon rapport qui n'a pas été publié jusqu'ici. Ça va être fait en juin, peut-être. Et ça doit être publié avant cette réunion. Et ça, donc, on travaille sur les commentaires que nous avons reçus. Donc, je vais vous parler de ce document et je vais essayer d'être brève. Donc, les questions que nous avons eues cette semaine, ça parle des documents que nous avons. Et ce que je vais vous montrer, c'est vraiment un résumé qui parle des étapes différentes du processus et le contexte dans lequel nous travaillons. Donc, le diapo que vous voyez, c'est j'espère que vous avez accès à ce document sur Internet. Donc, vous avez le lien où vous pouvez trouver cette information, ce document. Donc, le premier document concerne la protection des marques déposées, qui est une des questions majeures concernant les discussions de GTLD. Et ce que vous voyez, ce sont un document que nous avons préparé par le groupe de GNS qu'on appelle GSTI, qui concerne les marques déposées. Et on nous a demandé d'étudier ces deux propositions concernant la protection et de déterminer s'il y avait la consistance qui a été imposé par le GNSO. Donc, il y a une nouvelle proposition concernant la protection des marques. Et on a aussi une banque de données qui donne l'information concernant les marques déposées dans les registres de GNSE et GTLD, les registres. Et l'information que nous avons peut être partagée parmi les personnes qui s'intéressent. Deuxième document que vous voyez, c'est le URS. Donc, c'est le processus de la suspension qui doit aller avec, c'est-à-dire lorsque on a les noms déjà enregistrés avec les GTLD. Donc, ça nous donne un mécanisme de voir comment ceux qui ont enregistré leur marque déposée peuvent se plaindre. Et si on a fait une suspension, on peut voir s'il y avait un abus de marque déposée ou pas. L'autre document qui concerne la protection des marques déposées, c'est le PDDRP. Et ça concerne la résolution des disputes. Et c'est déjà mis à jour et ça a été publié. Ça concerne, c'est un outil de mécanisme qui est appliqué après l'enregistrement d'une dispute. Et ça concerne les disputes et comment résoudre ces disputes après l'enregistrement des marques déposées. Et donc, ça se fait après les marques déposées sont déjà enregistrées. Alors, ici, ça concerne le comportement qui va contre la réglementation. Donc, nous avons un nombre de GTLD et nous avons deux communautés, deux groupes de travail pour les deux communautés qui vont faciliter le partage ou qui vont étudier les comportements pour détruire pour l'abus des marques, et on ne va pas encourager ça. Après ça, nous avons aussi les méthodes de sauvegarde pour assurer que le partage d'informations sur les GTLD est dirigé par les groupes de travail au niveau des communautés. Et premièrement, ça concerne la haute sécurité. Et les TLD ont une initiative sur ça. Et ils essayent d'avoir un cadre de contrôle pour assurer les standards. Et cela peut être adopté pour renforcer le niveau de confiance et de sécurité en se basant sur les conditions que nous avons déjà établies. Et cela vont assurer que les consommateurs ont plus de connaissances et plus d'informations concernant les acteurs et les ETLD que nous avons. Deuxièmement, c'est l'accès aux zones de dossiers. Ça veut dire que c'est pour faciliter l'accès aux individus qui s'intéressent dans l'environnement de l'information, et ils peuvent consulter, avoir l'information qu'ils veulent. Et ce que ça veut dire, c'est le groupe de travail ici s'occupe de processus en concernant l'environnement de la plupart de GTLD, la possibilité d'avoir un bureau central pour avoir cette information. Je ne sais pas, il y a une possibilité de commenter après. Après, en ce qui concerne le guidebook pour l'application, nous avons un résumé des analyses, des commentaires par le public. Et nous avons le lien qui va vous donner accès à ça. Et deuxièmement, ça concerne les requis, les prérequis du caractère de N3. Et donc, on parle de N3, les recommandations pour la réglementation précédente. Et nous vous donnons aussi le lien pour accéder à cette information sur les conditions pour la définition de caractère. Et donc, je pense pour le GTLD, cette information est aussi importante. Et on a aussi formé un autre groupe qui focalise sur le travail de Sydney. Et ce groupe va travailler davantage sur cet aspect. Et donc, le lien que vous avez sur l'écran maintenant, ça vous montre l'information que nous avons à voir la mise en œuvre et les recommandations que nous avons concernant ces conditions, surtout pour les situations où les GTLD ont les deux caractères et pas les trois, comme nous avons ici sur l'écran. Et en concernant les IDN aussi, on a proposé de nouveaux textes à haut niveau, et j'espère que ce que vous avez sur le lien, ça concerne la mise en œuvre des langues, et c'est une sorte de comment les TLD ont proposé et comment on recueillit l'information quand les intéressés, ceux qui veulent faire la déclaration, postulent, et quand on étudie les dossiers. Et après ça, il faut bien comprendre que nous avons des recommandations et un mécanisme qui concerne les questions techniques. Et ça peut exister en même temps que d'autres. Et cela, c'est une question de développer les GTLD pour les accords des registres. Il y a quelque chose aussi que je vais ajouter à propos de ça. L'autre lien en bas, c'est le nom est un peu long, mais c'est une question, c'est une application basée sur les communautés et une préoccupation que les demandeurs peuvent dire qu'ils ont un projet qui est basé sur la communauté. Et il y a une réglementation sur place déjà. Donc, on peut confirmer après une durée de temps, après une période de temps, vérifier ce qu'ils ont dit. Et aussi, il y a les procédures pour la résolution des disputes. Et puis, on a le travail de groupe. Et ça fait partie des conservateurs des registres. Et c'est l'accord concernant les changements que nous avons faits sur la réglementation est une des choses que nous devons encore aborder concerne le processus de voir comment les accords peuvent être améliorés. Et normalement, les demandeurs doivent signer les mêmes accords. Et dans le passé, nous avons eu qu'il y avait des procédures, des processus où le registre est discuté et avoir un système pour assurer l'équilibre et connaître quelles sont les actions qui sont importantes. Et c'est quelque chose qui, pour nous, on a eu quelques commentaires de la part des conservateurs des registres concernant les dossiers qu'ils ont, mais on n'a pas eu de discussion à part cela, à l'extérieur de ce contexte. Mais on a contacté des personnes en ligne et On parle de, on a fait des propositions d'un modèle et nous voulons vraiment avoir des commentaires sur ce modèle pour voir si on peut avoir un mieux modèle pour l'avenir, donc, parce que les conditions changent avec le temps. Donc les conditions au niveau des registres doivent aussi changer. Donc le document suivant concerne les opérations des registres. Et c'est une étude sur les données venant de l'industrie et concernant les demandes et les critères pour l'évaluation. Et pour continuer avec les opérations dans les registres, et c'est une étude qui a été faite par une... On a demandé à quelqu'un d'autre de faire cette étude et de voir comment l'application de ces processus peut se faire. Et ce que nous avons constaté, c'est que le processus de l'évaluation doit être fait par des personnes qui comprennent la situation actuelle concernant les données, la vérification de ces données, avant qu'on n'accorde pas. Et puis, le dernier document, c'est la déclaration d'intérêt. Donc, c'est un modèle sur la déclaration d'intérêt. Et c'est une proposition que nous avons. Et ça doit se faire avant qu'on reçoive les demandes. Donc, c'est comme si c'est une description de ce que nous devons avoir avant que les intéressés ne nous donnent leur demande. Mais je peux vous dire que on va terminer ce travail à temps. Et il y avait des questions que nous devons aborder avant qu'on termine avec ce modèle. Et c'est un modèle qu'on devait faire en décembre. Mais il faut tenir compte des commentaires. Et ce que nous avons maintenant pour l'explication, donc la présentation du modèle, concerne comment, quelle est la justification, et puis les objectifs, le modèle proposé, et puis il y a les coûts et les conditions, les délais, donc l'horaire et les phases qui doivent suivre cette activité. Et il y a un lien également qui va vous donner plus d'informations sur ça. Donc, la session d'hier, nous avons parlé de ces propositions et Olivier nous a expliqué. Et donc, c'est ce qui concerne ce que nous parlons, dont on parle ici à Nairobi. Donc, c'est le dernier diapo que j'ai. Donc, ça parle de ce que le modèle de la déclaration d'intérêt concerne. Donc, ça va être obligatoire avant de faire une demande. Et ça va être possible pour toute personne qui s'intéresse. Et il y a le coût qu'on a mis, 55 000 dollars américains. Et donc, ce sont des frais de l'évaluation. Et il y a aussi, on peut rembourser ces frais seulement dans des circonstances bien définies. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il faut bien définir ces circonstances et ça doit être clair pour tous ceux qui s'intéressent. Donc, par exemple, si on annule le processus de demande, on peut peut-être rembourser, peut-être aussi, s'il y a des circonstances qui n'étaient pas prévues. Et il faut bien sûr expliquer ces circonstances avant même le lancement de la demande. Et puis après ça, c'est l'information concernant la participation. Donc, ça va parler des forces. Et il faut bien expliquer, on s'intéresse à quel type de demande et on va partager cette information au niveau du public. Et Donc ce processus, ça concerne à recueillir l'information et Cannes va faire l'évaluation à partir de l'information qu'ils auront recueillie. Et puis il y a la résolution des disputes, comme j'ai déjà parlé. Et il y a une autre chose que nous n'avons pas ici, c'est qu'il y a quelques suppositions que peut-être une pour ce modèle, c'est que si on va faire ce processus et si ça va être obligatoire avant le lancement, c'est important de communiquer et de donner toute l'information et de dire quelles sont les opportunités que nous avons et quelles sont les possibilités de cette demande. Donc, je pense pour qu'on accepte la déclaration d'intérêt, il faut bien comprendre toute cette information. Il faut aussi préciser que nous avons parlé des commentaires concernant le fait qu'il y a des domaines de la mise en œuvre de cette déclaration d'intérêt. Il y a des préoccupations qui concernent l'incertitude concernant la déclaration d'intérêt parce que quelques temps, les gens n'ont pas l'information qu'ils veulent avoir et pour cette raison, on a besoin de partager cette information avec tous. Donc, on doit compléter ce document. Comme ça, personne ne va se plaindre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair avant qu'on ne fasse cette demande. Donc, pour continuer, je pense que ce qui est important, c'est le partage de l'information. Et c'est la fin de la présentation. Merci bien.
Alors, et les informations, on a eu des commentaires. C'est la session de questions et surtout il y aura des questions et surtout concernant les trois caractères et les spécificités et est-ce que vous avez des questions? Et juste une question, et je n'ai pas l'entendu. Avec l'obligation, avoir l'expression d'intérêt obligatoire, et si vous donnez assez de temps aux personnes de présenter les cas particuliers et aussi les permettre d'avoir les objections. Et cela devient un grand problème. Et avant vraiment de commencer le processus d'évaluation, et surtout avec les communautés, d'avoir les cas contre le domaine, même s'ils ne peuvent pas l'avoir ou tuer quelqu'un. Et vous pouvez protéger quelqu'un. Et en disant qu'on a enregistré un marque déposé avec les campagnes, avec les cas particuliers, on ne peut pas les arrêter. Alors ça, c'est un problème avec les petites communautés. Et ça, c'est... Je comprends ce commentaire. Et c'est ce qu'on peut appeler... Et en conséquence, qui n'a pas l'intention. Et surtout avec les personnes qui sont prêtes à être contre les demandes. Alors, il y a des personnes qui peuvent refuser et qui peut inclure aussi les communautés et surtout avoir assez du temps de mobiliser l'information. Les raisons, j'ai perdu les personnes qui sont en ligne et c'est pourquoi je vous ai demandé de partager l'information avec nous. Nous avons Sébastien. Si vous voulez, vous pouvez lever la main pour les questions. Alors, une autre question? Il y a la question concernant la réunion de samedi. Alors, parce que c'est important, j'ai pas publié les documents qui étaient, mais c'était en anglais ces documents. Alors, et un jour, peut-être vous allez avoir quelques jours de nous présenter l'information. Alors, juste pour éclaircir, et ce n'est pas écrire et être capable d'avoir les échanges avec nos collègues et aussi avoir les documents en avance de notre langue, peut-être en anglais, en français, en espagnol. Ou bien les langues des Nations Unies. Alors, c'est très important pour nous d'avoir notre comité impliqué dans le projet. Et ce n'est pas faire juste d'être dans cette situation de communication en anglais seulement. Et deuxièmement, il me semble que donnons pour deux choses. Premièrement, le document préliminaire, et c'est la même version, et j'aimerais savoir pourquoi on a eu des changements et quelle est l'importance du changement. Et deuxièmement, vous parlez de l'expression d'intérêt et le forum public. Il y avait la première je ne suis pas sûre concernant. Et concernant la demande, ça c'est une préoccupation non seulement concernant les mots utilisés, mais je suis sûre que vous avez parlé de DAC et c'est écrit AG. Je pense que ça c'est un peu ambigu. Et merci pour les commentaires. Concernant la traduction, je suis d'accord. Et concernant ces documents particuliers, nous sommes en train de les traduire et on espère qu'ils seront là dans les autres langues. Et c'est vraiment un grand défi d'attendre les délais de demande et avoir aussi la traduction et aussi et suivre tout qui sont liés à cela. Mais alors c'est une question que moi et nous tous nous essayons vraiment d'avoir le programme et c'est quelque chose que nous devons vraiment considérer. Nous devons attendre cette position concernant par rapport à ce sujet. Concernant l'expression d'intérêt ou la déclaration d'intérêt. La proposition, c'est expression d'intérêt, le processus. Ce sont les synonymes, c'est-à-dire expression d'intérêt qui fonctionne comme la préinscription pour faire la demande. Nous les appelons EOI. C'est facile vraiment d'avoir ce sigle. Alors, c'est l'expression d'intérêt et le processus d'enregistrement. Alors, le document préliminaire, et je ne suis pas sûre, mais c'est toujours dans la version préliminaire. Et si nous avons... Et on peut donner le commentaire pour le document final. Et la question de trois caractères, il y a quatre idées et c'est pour les communautés qui ne sont pas latins. Alors, pour la traduction, je suis d'accord avec Sébastien et surtout avec la publication. Alors, il faut vraiment avoir les versions traduites et pour ça, c'est possible de comprendre les commentaires concernant la variance, les caractères. J'ai constaté que le groupe de travail a terminé le rapport final et la période de commentaires s'est déjà terminée. Alors maintenant, on envoie au conseil et j'aimerais savoir quel est le statut. Est-ce qu'on va les considérer comme les documents finaux? Merci. Je sais que l'information qu'on a présentée au conseil et la langue et la langue, ça doit être inclus dans le document de guide. Et alors, ça, c'est un nouveau détail, les propositions qu'on n'a pas eues auparavant. Alors, nous cherchons les commentaires avant de dire les prochains pas. J'ai deux questions. Premièrement, concernant l'expression d'intérêt, je n'avais pas l'opinion jusqu'à la session d'hier. Et il y avait les arguments que dans le système actuel, c'est efficace pour les premières demandes d'intérêt. Est-ce que vous anticipez, avec le feedback reçu hier, est-ce qu'il y aura des changements liés? Est-ce que c'était détaillé l'information pour guider ce travail? Deuxième question. J'avais l'autre question, mais je laisse tomber. Alors, la question, c'est parce que cela a un impact sur le processus de démarrage. Moi, je ne pense pas, ça, ce n'est pas l'intention, mais ça semble à créer une confusion parce que premièrement, il y avait l'expression d'intérêt et qui est devenue un processus de pré-enregistrement. Et d'après moi, les deux ne sont pas nécessairement séparés. Quand on considérait l'objectif initial de recueillir l'information, et la question que cela s'est mandatoire et géré par ce but. Et si nous avons besoin d'informations appropriées, est-ce que vous devez avoir un engagement, un type d'engagement de le faire? Et ça, c'est notre façon de le construire. Alors, je ne vois pas que c'est nécessairement, cela a nécessairement changé. Et alors, peut-être, c'est juste les éclaircissements en disant que les pré-inscriptions, au lieu de dire tout cela. Alors, ce commentaire, on a déjà eu auparavant concernant la communication. Alors, ça, c'est un commentaire important qu'on doit considérer. L'autre question, c'est la zone de sécurité, le programme de sécurité. Ça c'était la première question. Maintenant, c'est la deuxième. Moi, je vais parler plus tard. La question spécifique, c'est le mandat pour ce groupe. Et nous avons les personnes dans le groupe qui sont en train de discuter la question des principes de l'avoir ou de ne pas l'avoir, les avoir. Est-ce que c'est la direction claire? Est-ce qu'on peut l'avoir ou de ne pas l'avoir? Et c'était l'impression que j'avais auparavant, c'est avoir la proposition d'une idée et puis on donne l'occasion à la communauté de donner leurs opinions. Alors, nous ne travaillons pas parce que nous sommes très peuplés, parce que la majorité des personnes disent qu'on ne doit pas avoir. Alors, moi, je ne fais pas partie du groupe, mais je pense que je ne crois pas, mais et la raison derrière la formation de groupe, c'était l'idée de communauté qu'on doit aborder, les préoccupations de la communauté. Nous avons développé un concept qui n'est pas concret et les volontaires ont essayé de faire avancer le programme. Ça, c'était ma compréhension dès le début concernant le groupe. Pour moi, la frustration, ce n'est pas dire que ce n'est pas nécessaire. Et peut-être, c'est avoir une direction de dire oui ou non, mais comment alors, nous devons vraiment poser cette question à groupe approprié. Alors, comme ça, on va noter et informer le groupe. Je pense que l'expression d'intérêt porte des désavantages aux demandeurs de communauté, les obligations de la communauté. Et elles sont des désavantages parce que les frais de demander étaient très hauts et les personnes ont dit que les frais sont très hauts et ils ont dit aussi que on doit avoir les catégories de demandes, et surtout pour les pays en voie de développement et concernant les demandes axées sur la communauté. Alors, nous avons des problèmes avec cette expression parce que pour ceux qui sont capables de payer ou s'ils ne sont pas sûrs d'avoir les services, et ça sera une autre barrière, un autre obstacle. Parce qu'il y a des personnes qui vont essayer d'opposer des demandes. Et comme Alan a dit, c'est surtout le cas pour la situation de ces personnes. Mais les demandes de la communauté et des pays en voie de développement seront affectées négativement. Et merci. Si vous étiez là hier, on a beaucoup discuté ce sujet en termes de processus, procédure, la structure des frais, etc. Et aussi les types de demandeurs. Alors, on a discuté en détail hier. Alors, ici, il y a la répétition et ça, c'est juste pour dire que nous avons maintenant les commentaires d'Angin et puis nous allons continuer avec l'autre session et ça sera le travail. On va continuer avec la prochaine session. Et considérons les sentiments, nos sentiments, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire. Ça a pris beaucoup de temps et on a eu des questions. Est-ce que nous devons ou je dois? Alors, ce qui est très important, c'est de le faire parce que nous ne savons pas beaucoup. Et aussi avoir un pilote. Et quand nous avons un cas pilote, et à la fin de ce, il y a des questions qui se présentent, et vous avez des problèmes soulevés, et c'est à nous maintenant de réfléchir sur ce que nous allons faire concernant cela. Alors, juste une remarque de $55,000. Je ne sais pas le processus, mais ce que nous entendons, c'est le demandeur potentiel et qui qui vont opérer dans les arrangements de budget de financement. Avec ce type de processus, dans les 18 mois ou n'importe quel délai. Alors, quelle est la méthode d'accéder les finances? Ils vont travailler sur les budgets qui existent et on doit vraiment considérer tout cela. Alors, nous travaillons généralement et cela prend beaucoup du temps. Alors, on n'espère pas qu'on va vraiment... on doit vraiment faire attention avec les demandes potentielles. Alors, cela va peut-être rester avec les affaires dans les pays du Nord, de l'Europe, etc. Alors, on doit avoir, ça doit être clair, cette question de l'expression d'intérêt. Alors, je vais considérer vos commentaires. Alors, Olivia.
Oui, allez-y. Merci. Madame la Présidente, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'étude économique, si ça revient donc avec des résultats escomptés concernant les nouveaux GTLD, ça va donc retarder les processus même davantage à cause du fait que ça peut ne pas être durable d'utiliser les nouveaux GTLD pour les demandes commerciales. Mais ma question n'était pas là-dessus. Ma question est de savoir pourquoi est-ce que jusque-là le système semble favoriser un seul modèle, c'est-à-dire juste un côté pour satisfaire tout le monde. Quand on parle donc de l'étude économique, on veut faire, il faut donc se pencher sur les autres aspects du processus. Merci. L'une des choses dont on a discuté dans les discussions sur le développement du passé, on s'est dit qu'il fallait qu'il puisse y avoir une diversité, une variété en ce qui concerne les demandes qui sont faites. Et cela donc veut dire que qu'il faudrait donc avoir une variété de différentes personnes qui s'occupent des affaires, de différentes demandes donc. Je pense que cela est bien expliqué de manière spécifique dans les évaluations qui ont été faites. Je pense qu'on doit donc évaluer la situation concernant les propositions qui sont faites et voir aussi s'il y a des capacités techniques qui sont appropriées par rapport à ce qu'ils proposent de faire. Et de cette manière-là, il y aura donc une possibilité d'inclure cela dans les critères. On a passé quand même assez de temps à travailler sur les critères. Il y a donc certains aspects qui sont saisis dans les critères. Et il y en a donc, il y a des critères qui excluent certaines classes de personnes. Quand, par exemple, il y a des demandes concernant les noms de domaine, parfois nous avons des critères qui font qu'il y a certaines personnes qui doivent être exclues. Ouais, voilà, je pense que l'idée principale est d'avoir une variété de demandes. Il y a aussi une option où les demandeurs qui viennent de la communauté, on doit accorder donc priorité aux demandeurs qui viennent de la communauté au lieu de le faire pour les demandes commerciales. Ce n'est pas notre intention de pouvoir créer juste un modèle unique. Notre intention, c'est d'avoir un système qui puisse bien fonctionner un système qui puisse aborder et résoudre les problèmes de différentes demandes qui sont faites. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'il puisse y avoir plus de diversité. Merci beaucoup. Je suis désolé de pouvoir arrêter là parce que nous avons donc, nous connaissons un retard de 15 minutes et puis il y a aussi la pause café qui nous attend, mais il y a des informations très importantes. Mais je voudrais d'abord qu'on puisse applaudir l'un de nos personnels, du membre de notre personnel régulier. Oui, maintenant vous pouvez prendre la chaise de la présidence. C'est très important. Je vous demande donc de pouvoir trouver de la place de telle sorte que nous tous nous puissions vous voir. Il faudrait bien qu'on puisse vous voir autour de la table parce que tout le monde, toutes les parties prenantes sont donc représentées autour de la table. Ce serait mieux que vous fassiez de même. Merci, j'appelle enfin, je suis dans le comité de nomination depuis 2010. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent bien la procédure donc, de ce comité de nomination. Vous savez que ce comité a été nommé déjà et chaque année. Le comité de nomination a la tâche difficile de sélectionner, choisir donc les dirigeants d'ICANN. Nous sélectionnons au total 8 membres du comité directeur. La majorité donc est nommée par le comité de nomination. Nous sélectionnons aussi au total 3 membres pour les conseils. Pour le conseil, et puis nous sélectionnons 5 membres pour le comité consultatif qui a besoin de 5 personnes provenant de votre groupe, vous qui êtes donc autour de cette table. C'est donc le processus que nous parcourons, nous faisons chaque année, et cette année, comme vous le savez, on doit donc remplir 3 postes, un poste pour le conseil, 2 pour le comité consultatif. Le système fonctionne comme suit. Nous avons... Au sortir de cette réunion, nous avons donc un site web où vous pouvez trouver toutes les informations et les documents si vous vous intéressez à pouvoir faire la demande pour remplir un poste de leader d'ICANN. Vous pouvez donc aller sur le site web et remplir le formulaire. Et si vous aurez besoin de soutien pour votre demande, et votre expression d'intérêt aussi. Et puis, là, la date, en avril 2, il y aura une discussion là-dessus. Ce n'est pas une blague, je suis en train de parler très sérieusement. La date butoir, donc, c'est avril 2, pour l'expression d'intérêt pour la demande. Si vous pensez que vous voulez poser votre candidature, vous avez un mois pour y penser. Donc, avril 2, c'est la date butoir, tout sera fermé. Alors, à ce moment-là, nous allons sélectionner les candidats après qu'on aura reçu toutes les demandes. Ce sera là, donc à la fin du mois de juin. Et là, c'est le travail des nouveaux leaders d'ICANN qui ont été sélectionnés, qui va commencer donc en décembre en Amérique latine. Je pense qu'on va passer à la diapo suivante. Cette diapo, comme vous pouvez le voir, c'est sur ce que je vous ai déjà présenté, ce que nous devons faire au cours de cette année. Nous travaillons donc selon différents calendriers et les membres de GNCO qui sont doivent travailler pendant 2 ans et puis même pour les conseils, le comité consultatif c'est 2 ans aussi. Nous avons pour ce conseil une certaine obligation à suivre les règlements de la diversité géographique parce qu'il y a une année on a sélectionné 3 candidats, une personne de la région du Pacifique, une autre de la région africaine, une autre du notre raison. Et puis une autre année, on a donc sélectionné une personne de l'Amérique et de l'Europe. Cette année, pour le comité consultatif, nous devons donc sélectionner des candidats européens et de l'Amérique du Nord. Ainsi, je pense qu'il est très important, si vous pensez sur ce problème, il faut bien comprendre les critères de sélection et voir comment nous opérons. Et cela donc doit démontrer l'intégrité, l'ouverture d'esprit, et cela est très important. Et il faut donc, on cherche donc les capacités pour un travail d'équipe, une bonne prise de décision et voir comment on peut appliquer les principes de bonne gouvernance. Alors pour ce faire, il faudrait donc se familiariser avec ces différentes pratiques qui se font donc au sein de notre groupe. Il faut comprendre aussi que le problème de compensation ou de remboursement de certaines dépenses. Et pour ce faire, il faut avoir l'habilité de pouvoir travailler et communiquer en anglais. Et surtout pour les personnes provenant de différentes régions culturelles de la France, de l'Espagne, de l'Inde, de la Russie, ainsi de suite, nous devons donc avoir une certaine diversité culturelle pour des raisons pratiques. Et cela est beaucoup plus facile si, par exemple, vous travaillez pratiquement dans votre langue locale, mais de pouvoir aussi communiquer en anglais, parce que sans cela, ce sera un point supplémentaire, parce que quand on travaille sur base et traduction, parce que vous savez, ça requiert beaucoup de ressources, je comprends, surtout pour Sébastien qui se bat, ça fait beaucoup d'années de pouvoir avoir des documents en français. Dans ce qui me concerne, moi, je favorise beaucoup la diversité linguistique et culturelle. Je vois aussi l'avantage si le candidat a des connaissances élémentaires en anglais, et ça, c'est beaucoup plus utile. Je pense qu'il faudrait donc essayer de tenir compte de cela. Et comment est-ce qu'on peut procéder? Encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Il faut donc aller sur le site web d'ICANN et envoyer une expression d'intérêt, et comme je l'ai dit, la date butoir, c'est le 2 avril. Mon tout dernier mot, c'est que j'attends de votre groupe, c'est que nous avons besoin de votre aide. Et il y a donc deux instructions ici. Si les membres de votre communauté pensent qu'ils voudraient soumettre la demande, vous devez donc essayer de voir dans votre communauté, dans votre pays. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne sont pas encore impliqués dans ICANN. Et probablement, ces gens que vous pouvez amener peuvent amener une valeur ajoutée au processus d'ICANN. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on est en train de faire avancer les choses, notre rôle est beaucoup plus crucial. Il faudrait donc essayer d'amener tout ce que vous avez, même les gens de la communauté, au processus, parce que vous pouvez faire davantage, surtout si vous êtes même dans le mécanisme du processus. Si on doit faire avancer les choses, il nous faut des idées beaucoup plus fraîches, parce que ce n'est pas toujours bon d'avoir toujours les mêmes personnes qu'on a nommées, renommées, et qui doivent être là. En d'autres termes, il y a une certaine limite, parce que nous avons besoin d'une certaine innovation, en particulier dans le comité consultatif, parce que là, c'est un environnement où nous devons ouvrir les portes aux nouvelles personnes afin de les faire entrer dans les processus qui puissent entrer et s'y être des dirigeants de demain. Je suis très reconnaissant que vous m'ayez donné cette opportunité, et nous pensons dans notre intérêt commun. Je pense que votre comité va donc profiter du bon travail qui sera fait par le comité de nomination. Et nous demandons donc à vous tous de pouvoir faire un travail au niveau de votre communauté. Merci. Merci beaucoup. Nous avons déjà des doigts qui pointent pour poser des questions. Oui, vous pouvez poser la question. Je voudrais d'abord vous remercier, votre comité, pour le bon travail que vous faites. Je pense que c'est une très bonne chose pour Akan que vous soyez donc le président de ce comité. Je voudrais donc vous ajouter dans la catégorie des personnes. Il y a une catégorie que vous avez oubliée. C'est la catégorie de ces gens qui perdent tout le temps chaque fois qu'ils entrent dans les processus et des gens qui continuent toujours à poser leur candidature dans les processus. Il y a aussi un autre type de personnes qui connaissent très bien aussi les processus. Merci. Oui, ça, ce n'était pas une question, c'était juste une observation. Juste pour vous expliquer un tout petit peu, c'est une tâche très difficile, surtout quand ça passe au comité directeur. Nous avons donc 3 directeurs européens sortants. Et il y a donc il y a quelqu'un qui a des compétences très techniques, puis il y a un autre avec des compétences diplomatiques, et puis Denis qui a des compétences commerciales. Maintenant, si vous regardez comment on peut articuler les comités directeurs, ce n'est pas seulement des individus qu'on voit, on essaie de voir des compétences très spécifiques, parce qu'on ne suit pas seulement l'équilibre géographique ou l'équilibre du genre, on voit aussi la compétence. Et ce serait sans cela, ce serait très difficile de pouvoir encore renommer les Européens. Sinon, on va seulement avoir les Européens au comité directeur. Mais si nous ne nommons pas d'Européens, ce serait encore contre le règlement intérieur. Il faudrait quand même que l'Afrique est représentée par le directeur, mais en fin de compte, nous avons eu cette discussion auparavant, et il y a aussi un membre chinois de notre comité, Olivier, qui est aussi membre du comité. Et il y a beaucoup d'autres qui font partie du comité. Nous devons inclure la région du Pacifique, par exemple, qui est sous-représentée. C'était représenté juste par le directeur du comité, et puis il y a quelqu'un de l'Inde. Mais la communauté d'internautes de la Chine, de la Corée, du Japon ne sont pas représentés. Cela veut dire que c'est ça, donc, les difficultés que nous devons résoudre. Ce n'est pas du tout facile. Je dois aussi dire à tout le monde qu'il faudrait donc essayer de faire un travail dans la communauté pour trouver des candidats. Une demande pour 2010, ça veut dire que vous serez dans le pool pendant juste 3 ans. Il y a donc une boîte pour la résolution, pour servir votre intérêt. Ne dites pas qu'on ne vous a pas sélectionné, mais automatiquement, vous allez rester dans le pool pendant 3 ans. Parce que quand la décision finale n'a rien à faire avec la capacité de la personne, mais c'est quelque chose qui doit être décidé à travers certains processus. Si, par exemple, vous n'êtes pas qualifié pour le travail, cela veut dire que cette année, vous n'êtes pas vraiment dans la... vous ne rentrez pas vraiment dans, l'esprit même du processus. Comme vous le savez, nous avons aussi un principe de confidentialité. On en discute davantage. Parce que il y a des gens qui disent qu'il y a une certaine conspiration et on essaye de trouver donc des postes pour leurs copains, ainsi de suite. Non, ça n'a pas de sens. Le processus, c'est un processus vraiment démocratique. C'est un processus très délicat. Concernant la question de confidentialité, il est très important de pouvoir à protéger le candidat. Personne ne saura que vous avez posé votre candidature. Ce n'est pas moi qui sélectionne. Et puis, quand vous faites votre demande, cela ne veut pas dire que vous êtes perdant. La question, quand vous, par exemple, vous perdez, c'est que vous n'avez pas été choisi pour cette année, mais l'approche est que vous allez demeurer dans le pool pendant au moins 3 ans. C'est de ça que nous faisons donc. Il y a le quart de demi-finale, la quart de finale, et puis dans les finalistes qui sont donc dans la phase finale. C'est comme ça que se font les choses. Mais si vous faites votre demande en tant que candidat, vous devez donc être sûr que cela se fait de manière confidentielle. Parce que si nous publions cette information auprès de vos amis, mais là, à ce moment-là, c'est à vous de porter le chapeau. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi-même qui vont demandé qu'on puisse soutenir certains amis que nous connaissons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? Comment est-ce que le comité s'attend à ce que nous puissions soutenir? Et comment est-ce qu'on peut parler des personnes qui nous demandent de le soutenir? Parce que vous savez, parfois on connaît des gens sous différents angles. Mais comment est-ce que ceci peut être incorporé dans votre processus de sélection? Y a-t-il une sorte d'orientation? Parce que probablement il y a beaucoup de gens à qui on va demander de soutenir certaines personnes. Y a-t-il une certaine orientation pour dire aux gens comment ils peuvent se comporter et qu'est-ce qu'il y a des idées là-dessus? Mais si vous penchez sur les critères de sélection, vous verrez qu'il y a toutes les instructions. Parce que si le premier critère, c'est de choisir des gens qui aiment beaucoup l'Internet et qui vont faire une contribution de telle sorte que l'Internet puisse continuer à fonctionner de manière libre, transparente, assurée et stable. Parce que si vous allez donc à la déclaration d'AECAN, vous verrez que c'est ça donc le principe que nous avons. Nous devons donc avoir des personnes dans la position de leader d'AECAN qui soutiennent beaucoup notre travail et qui veulent l'améliorer. Parce que nous savons que le projet de loi est juste sur le papier, mais si vous allez à la version originale de ce projet de loi, vous verrez bien ce qu'il y a sur ICANN et sur les noms de domaine. Il y a très peu d'informations qui ont été collectées pendant ces 12 ans. Il faudrait donc recruter des gens qui ont le courage et l'énergie de pouvoir faire avancer les choses et dire, par exemple, voici ce qui doit se faire, voici ce qui doit être livré, au lieu de toujours reporter ce qu'on doit faire. Nous devons donc prendre la décision maintenant. Il y a donc une étude qui a été faite. Personnellement, je pense que le programme a été envoyé, distribué, en tenant compte de tout ce qu'on a fait comme réalisation. Il y a des gens, par exemple, qui disent que c'est vrai qu'il faut aller de l'avant, il faut donc trouver des gens qui ont une bonne compréhension des choses, non pas seulement des gens qui viennent, qui sont des participants silencieux. Et ça, ce n'est pas assez. Donc, il faudrait avoir des gens au comité directeur qui font avancer les choses, qui amènent une valeur ajoutée par rapport au projet de loi. Et c'est parce que sinon, si vous êtes dans un pays et vous ne connaissez pas votre constitution, ça pas très bien. C'est pourquoi il faudrait amener à bord des personnes qui puissent vraiment s'intéresser aux projets de loi et aux activités de d'ICANN, et surtout notre mission, la mission d'ICANN. Vous avez parlé de la distribution géographique au comité. Vous avez dit qu'il y a 3 membres du comité dont le mandat a expiré. Les gens proviennent donc de l'Europe. Quand vous regardez le comité consultatif, ici, cette année, il doit y avoir une personne de l'Afrique, puis un autre de l'Asie du Pacifique, puis un autre d'autres régions. Cela veut dire qu'il y a très peu de chances si vous appartenez à la région de l'Asie du Pacifique ou de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Non, mais vous savez, nous ne sommes pas vous voyez, nous ne sommes pas pratiquement, sérieusement versés dans ce que vous venez de dire, parce que nous sommes beaucoup plus flexibles, parce que tout dépend de la juridiction dont proviennent les gens. Si il y a un représentant, enfin la question de représentation dans le conseil, ce qui est important, c'est donc une valeur ajoutée qu'on amène au conseil, et cela renforce donc la diversification géographique aussi peut renforcer renforcer. Cela, c'est ce qui est important, c'est d'apporter une valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons eu des discussions antérieures avec les directeurs de cette LG. Parce que si vous devez aller, par exemple, au conseil, nous cherchons, donc nous recherchons donc les personnes qui apportent une valeur ajoutée pour juste renflouer les compétences que nous avons déjà représentées au niveau du conseil. Et ceci, donc, je veux dire, concernant le conseil, le comité consultatif, je dois dire que nous ne pouvons pas accepter cette année. Nous allons donc accepter la région de l'Asie du Pacifique. Je vais donc encourager nos collègues africains et d'Amérique latine de pouvoir faire connaître leurs enfants, à leurs amis, qu'il y a une chance pour qu'ils puissent aussi faire la demande pour faire partie du comité consultatif. À la fin de cette année, il y aura encore du travail à faire dans le comité de nomination. C'est encore ma responsabilité de pouvoir toujours aider de telle sorte que nous puissions continuer notre travail sur base des informations déjà disponibles au sein de la communauté. Parce que si nous n'avons que des Européens et des gens de l'Amérique latine, ce ne serait pas vraiment très bien, il faudrait donc parler à vos amis de telle sorte qu'on puisse avoir un bon équilibre quand on va encore se rencontrer en 2011. Il y a quelqu'un qui a suggéré qu'on puisse aussi avoir des femmes au conseil consultatif et que ces femmes doivent provenir de l'Asie du Pacifique. Nous avons donc une organisation qui se dit que les régions doivent aussi se pencher là-dessus pour voir comment elles seront représentées. Nous avons un grand équilibre dans... Nous cherchons donc un grand équilibre dans le comité. Il n'y a qu'une seule femme qui est représentée au comité directeur. Il y a seulement Rita, il y a Suzanne et moi-même aussi. Mais quand il s'agit des membres votants, Rita va partir donc en 2011. Et cela veut dire que... Il faudrait donc qu'il y ait des femmes qui puissent aussi faire la demande. Je vais demander à toutes les femmes qui sont ici de pouvoir faire la demande. Nous avons donc tout le nom des pléants, nous avons donc des livres, nous avons des matériels d'information. Vous pouvez donc prendre quelques copies et distribuer à vos amis, surtout les ceux qui ne sont pas encore membres. Olivier a des points de contact qui sont très importants. Olivier, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, Afghan. Je vais vous poser une question qu'on me pose souvent. Est-ce mieux de faire la demande pour un poste spécifique ou bien c'est juste bon de pouvoir être présent au comité directeur? Je pense que ce serait mieux de pouvoir faire les deux. Vous pouvez faire la demande pour la position au niveau du comité directeur. Vous pouvez encore juste tiquer dans toutes les boîtes. Vous devez donc faire le choix et dire que vous serez content d'être considéré pour les autres postes aussi. Et c'est correct, on peut faire ça. Vous devez donc indiquer votre priorité et puis dire aussi que bon, je suis d'accord aussi qu'on puisse aussi examiner ma candidature pour les autres postes aussi, comme cela est indiqué dans les manuels. D'accord, je pense que nous sommes arrivés donc au bout de questions et réponses. Moi, je suis très convaincu parce que je sais que ce sont les leaders régionaux qui peuvent fournir des informations parce que nous n'avons pas tout le temps, le temps de pouvoir avoir toutes les informations qu'il faut. Parce qu'en 2011, il faudrait donc qu'on puisse appliquer certains autres critères, comme le genre, par exemple. Merci beaucoup. Merci. Le mercredi, il y a aussi un atelier qui est organisé. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez venir donc à participer à cet atelier. Merci beaucoup. Je voudrais vous revoir ici parce que vous nous manquez beaucoup. Maintenant, on va donc faire des annonces et puis Baya et Catherine vont donc parler. Après cela, on aura donc la pause café à 11h. À 11h, je voudrais que certaines personnes puissent revenir ici parce que ce sont des personnes qui doivent faire les présentations. Nous parlons donc ici du comité de la réunion du comité directeur avec les parties prenantes non commerciales. Ici, les registres publics montrent qu'il y a une transition avec le groupe de parties prenantes non commerciales. Ça, c'est, il y a donc des questions très importantes qui seront discutées donc, dans ce programme. Et je pense que tous ceux qui sont de la région et qui ont quelque chose à faire avec les consommateurs doivent être aussi dans la salle. Donc le groupe va donc discuter de l'IRC. Donc, j'ai besoin de vous voir tous à 11h ici, moi-même, Hélène, Sébastien, Carlos et Vrickel. Quant aux autres, je vous encourage donc à aller à Impala. Et pour ceux qui doivent participer à notre réunion, ils doivent être ici à 11h. Merci.
Sorry, I have a...
J'ai une annonce à faire. Puisque l'hôtel qui nous a été fourni par ICANN n'a pas donc d'accès à l'Internet tout au long de la journée, je n'ai rien pu faire jusqu'à ce moment quand j'ai ouvert l'email. Parce que si je vais à Impala, peut-être que j'aurai des problèmes. Non, je pense que vous n'avez rien manqué. Quand est-ce que vous avez envoyé votre email? C'est à 3h du matin, n'est-ce pas? Vous n'avez rien manqué.
Impala at 11.
C'est d'autres qui doivent donc aller à Impala, c'est au premier niveau, et d'autres qui doivent venir ici. En tout cas...
I think we need to summarize. One of the items on the discussion is...
L'une des questions dont on est en train de discuter, c'est la création d'un nouveau groupe d'intérêt des consommateurs. C'est quelque chose que nous devons insérer dans notre programme qui est contraire à la juridiction des consommateurs. C'est ça donc l'intérêt potentiel. Et ceci n'est pas donc dans le programme public. Il faudrait donc voir ce qui se passe dans le programme réel. Vous êtes dans la salle, vous devez donc savoir ce qui est dans le programme.
Yeah, thank you. The usual.